travail au Kassai oriental. J'ai repris totalement cette
étude. Moi, j'ai été de vos combattants au Kassanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de maîtrise des bancs, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur la prétention de la paix. Le ministre du Tourisme, André Moké-Sanza, a rendu public ses priorités pour la relance de ce secteur. Il préconise la création d'une grande industrie du tourisme congolais, l'érection du tourisme en un outil de cohésion nationale, de consolidation de la paix et de sensibilisation citoyenne, ainsi que le relèvement du prestige du Congo et de son activité touristique. Comment mettre en œuvre effectivement cette priorité, c'est la question du débat à l'adresse pa@radiocapi.net. Rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 40 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Nico Kalambay est au standard, héritier Sidiakala à la mise en onde de cette émission, réalisée par Pierrot et la Mégie est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Angie. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Merci à vous tous qui avez déjà posté vos commentaires sur notre page Facebook. Vous êtes plus de 1500 avant que nous entrions dans ces studios avoir consulté et commenté cette thématique. Nous vous en remercions et nous allons lire quelques vos messages, disons certains de vos messages, d'un moment à l'autre. Le temps pour nous de recevoir dans ces studios et d'accueillir d'ailleurs notre invité, André Moké-Sanza, ministre du Tourisme en RDC. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, Gérard.
Alors, d'entrée des jeux, on sait tout de même qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secret, vous avez rendu public vos priorités pour relancer les secteurs du tourisme, tout en ayant à l'esprit que la République démocratique du Congo est un scandale touristique, un merveilleux site touristique. Mais paradoxe, c'est que les secteurs ne contribuent pas à fond dans la caisse de l'État.
Oui, J.R., je crois qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, il était de notre devoir d'abord de vous présenter la vision que nous avons du développement du tourisme en République démocratique du Congo. En effet, notre vision pour le développement du tourisme en République démocratique du Congo se fonde justement sur une évidence que vous savez, la République démocratique du Congo est un scandale touristique, un merveilleux site touristique. En effet, mieux que les mines, la destination RDC peut permettre au pays de relever conséquemment sa richesse nationale. Et nous sommes convaincus que la République démocratique du Congo a tous les atouts et le potentiel pour s'affirmer comme un des ténors, sinon le ténor du secteur en Afrique et un des piliers dans le monde, et ainsi constituer un des piliers principaux pour la relance de l'économie nationale. Notre ambition, justement, est de développer le tourisme durable, dans la mesure où cette forme de tourisme est supportable à long terme sur le plan écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan éthique et social pour les populations locales. Donc nous sommes fondés de reposer, comme je vous l'avais dit, notre action stratégique sur cette forme de tourisme car il a l'avantage d'exploiter de façon optimale les ressources de l'environnement qui constituent un élément clé de la mise en valeur touristique en préservant bien sûr le processus écologique essentiel et en aidant à sauvegarder les ressources naturelles et la biodiversité. Et ensuite, respecter l'authenticité socio-culturelle des communautés d'accueil, conserver leurs valeurs traditionnelles et contribuer à l'entente et à la tolérance interculturelle. Et assurer une activité économique viable sur le long terme, offrant à toutes les parties prenantes des avantages socio-économiques équitables et répartis, notamment en termes des emplois stables, des possibilités de services sociaux pour les communautés d'accueil et contribuer à la réduction de la pauvreté. Voilà, résumé, en fait, le fondement de notre vision.
Alors, est-ce que la promotion du tourisme est vraiment possible en République démocratique du Congo? Parce que la problématique de la relance du secteur ne date pas d'aujourd'hui. Bien avant 2010, on en a parlé. Après 2010, on continue à en parler et les problèmes demeurent. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce défi est difficile à relever?
D'abord, pour votre information, dans les 28 mesures urgentes que le gouvernement a prises pour la relance de l'économie du pays, lesquelles mesures, justement, ont été inspirées par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, le tourisme est l'une de ces mesures-là. Donc, le gouvernement de la République, n'est-ce pas, fonde justement son action de relance économique sur le tourisme. La promotion du tourisme est possible. C'est comme je l'avais dit au cours d'une interview, le gouvernement est là pour baliser le chemin. Nous jouons le rôle de quelqu'un qui est en train de frayer un chemin pour permettre à tous les opérateurs du secteur d'intervenir. Comme vous savez, le tourisme, en fait, est une activité qui est pratiquement transversale. Mmh. Vous avez le transport qui intervient, il y a le problème de l'hébergement, la restauration, les loisirs, les spectacles, les spectacles et les agents de voyage, par exemple. Mmh. Donc, c'est un secteur qui imbrique tout le monde. Enfin, donc, tous ces opérateurs, nous essayons de créer des conditions, n'est-ce pas, qui permettent de booster le tourisme au niveau de la région du Congo. Et il y a des mesures urgentes qui sont en train d'être prises, notamment la réhabilitation de l'Office national de tourisme.
Est-ce que vous êtes conscient, monsieur le ministre, qu'aujourd'hui l'image du tourisme à RDC est beaucoup plus frappante à l'est, dans l'est de la République démocratique du Congo qu'à l'ouest? Parce qu'à l'ouest, on sent quand même qu'il y a un déficit de la promotion du tourisme.
Effectivement, vous avez raison. Depuis toujours, on a toujours focalisé l'attention, disons, des nationaux et même des étrangers sur les sites de l'Est. Alors, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, que le Congo est un site, le Congo en lui-même est un site touristique. Déjà, notre fleuve. Mais quand vous faites une randonnée sur le fleuve Congo, qui est navigable jusqu'à Kisangani, mais c'est un attrait touristique. Vous avez par exemple le lac Maindombe, qui est une mer intérieure, qui vous fait des vagues allant jusqu'à 7 mètres de hauteur. Pour votre information, le bac de Maindombe est construit comme un bateau de mer. Vous voyez, alors, et à côté de ce lac, mais vous avez du sable blanc qui est là. Il y a même un hôtel de 50 chambres qui était déjà en construction, mais reste plus
de la maison.
Voilà, et il nous manque tout juste 1,5 million de dollars pour l'achever, sur une concession de 250 hectares. Et non, loin de là, vous avez le parc de Salonga, où il y a des bonobos, des essences extraordinaires. Donc, notre pays, et vous avez aussi, dans le Haut-Katanga, par exemple, vous avez les chutes les plus hautes d'Afrique, qu'on appelle Alofoy, n'est-ce pas? Donc, il y en a beaucoup, hein, même à l'intérieur, même au milieu, même du Congo. Vous avez le lac Mukamba, et vous avez aussi dans le Bas-Congo, les grottes de Mbanza-Congo, le jardin botanique, hein, n'est-ce pas, de Kisantu, et vous avez Zongo, vous avez, même à votre sortie de, à votre entrée de Matadi, à votre gauche, il y a un amas de pierres, n'est-ce pas, qui construit une montagne extraordinaire, n'est-ce pas, au sommet de laquelle on peut en faire des aménagements, y accéder par voie de téléphérique, par exemple, comme en Suisse, dont nous devons avoir,
aussi,
avoir aussi nos Alpes congolaises, au lieu que les gens
aillent là. Mais tout ça, ouais. c'est une vision, mais ça nécessite quand même de moyens. C'est comme qui dirait, c'est la fin qui justifie les moyens. Nous sommes une année électorale, c'est un gouvernement investi pour cet objectif élection, mais vous ne pensez pas que cette vision risque d'être noyée?
Bon, la vision ne doit pas être noyée, nous allons...
Vous l'esquivez sur combien
oui.
de durée
Bon, disons, dans un premier temps, il y a des actions phares que nous avons menées d'ici, en principe, 4 mois, n'est-ce pas? Et parce que pour construire une maison, il faut d'abord une fondation. Nous avons par exemple, en ce qui concerne la création de l'industrie du tourisme, c'est-à-dire créer des conditions, par exemple, en ce qui concerne les touristes qui veulent venir au Congo, n'est-ce pas? Des conditions en ce qui concerne consulaires qui doivent leur permettre de venir sans trop de problèmes, etc. Et là-dessus, nous comptons beaucoup sur le tourisme de masse. Parce que, en ce moment-là, tous ceux qui veulent venir au Congo comme touristes, par exemple, ben, ils doivent, disons, se confier à ce que nous appelons des tours opérateurs, n'est-ce pas, qui, eux, en synergie avec le cadre institutionnel que nous allons mettre en place avec l'ELT, n'est-ce pas, quand ces gens viennent, donc ils sont bien accueillis, n'est-ce pas, et aussi orientés sans trop de problèmes.
Voilà. Alors, on va revenir parce que c'est un problème moyen qui souvent fait défaut et généralement quand on tend vers les résultats, s'il n'y a pas de moyens, le résultat n'est pas celui escompté. On va revenir dans la deuxième partie pour parler un peu de ces fonds. À l'époque, les fonds a existé, le fonds du tourisme, où en est-on et qu'en est-il exactement à ces jours? Il est temps pour nous d'accueillir d'abord les auditeurs qui nous ont rejoints pour débattre ensemble cette question sur la relance des activités du tourisme en RDC par rapport aux priorités annoncées par votre ministère qui préconise la création d'une grande industrie du tourisme congolais, l'érection du tourisme en un outil de cohésion nationale et ainsi que le relèvement du prestige du Congo et de son activité touristique. 081 890 49 69 ou encore 081 890 63 80 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen. Olivier, vous êtes à Guadeloupe, bienvenue.
Oui, bienvenue. Bonjour, monsieur Gilles, et d'abord, merci à tous à l'invité.
Alors, Olivier, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Ben, en fait, monsieur Gilles, à mon humble avis, je dirais que le projet est louable pour la relance de ces secteurs du tourisme. Le projet est louable, mais le moment n'est pas propice pour parler de réellement de cette relance. Pourquoi je dis ça? Puisque nous avons dans notre pays certains défis quand même à relever. Par exemple, si nous voulons parler de ces secteurs, de la relance de ces secteurs, nous avons un problème de sécurité tout d'abord. On ne peut pas parler du secteur du tourisme tant qu'on ne fait pas référence au secteur du côté de la sécurité. Puisque un pays qui est hautement dans l'insécurité, on ne peut pas encourager à ceux qui viennent assez de touristes dans notre pays. Pourquoi? Parce que le tourisme quand même permet la relance quand même de l'économie nationale. Et quand nous sommes dans un intérêt hautement dans l'insécurité, ça va poser un problème. Ça, c'est de un. D'aider aussi, il y a un problème d'homme à la tête de toutes ces institutions. Pourquoi je dis ça? Parce que quelque part, ça demande aussi une certaine volonté politique de pouvoir bien mener à bon port ces secteurs de tourisme. Pourquoi? Parce que ces secteurs de tourisme, quand même, dépassent la nature. Moi, je parle de la nature d'abord de la RDC. C'est quand même un paradis terrestre, un site touristique. Mais en réalité, nous-mêmes, le Congolais, nous sommes ennemis de ces paradis terrestres. Nous ne voulons pas développer des stratégies pour permettre son développement.
Oui, mais Olivier, est-ce que vous êtes d'avis qu'aujourd'hui, il y a cette responsabilité aussi citoyenne, cette responsabilité de la population riveraine qui se trouve autour des différents parcs ou différents sites et qui font aujourd'hui la fierté du secteur du tourisme et qui, parfois, ça donne à des activités qui entament, en fait, la promotion du tourisme à RDC? C'est la population elle-même.
Oui, monsieur Gilles, je suis de cet avis. La population elle-même, de Paris, elle est partie de responsabilité de la responsabilité de la population. Mais nous ne devons pas seulement voiler la face pour dire cette partie de la responsabilité de la population suffit. Puisque si nous voulons analyser la nature de la relance des secteurs touristiques, ça permet quand même la relance de l'économie nationale. En se focalisant sur la responsabilité de la population, cela ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle je demande plus une volonté politique de pouvoir relancer ces secteurs. Mais le moment n'est pas propice, puisque parlons de l'intégrité, parlons de fiscal, le moment n'est pas propice pour permettre cette relance.
Merci beaucoup, Olivier. Alors Olivier, donc pour vous, c'est les moments, c'est vrai, l'idée de relancer le secteur, c'est une bonne chose, mais quand nous regardons en face, on se rend compte qu'on se retrouve devant deux réalités et qui constituent aujourd'hui un problème sérieux pour arriver réellement à atteindre cet objectif, c'est-à-dire les défis énormes, les défis sécuritaires et les défis budgétaires. Parce que là, pour vous, ça constitue quand même des obstacles majeurs. Est-ce que Jean-Claude partage cet avis? Jean-Claude, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, Bonjour Gérard, bonjour aussi à toute l'équipe, bonjour aussi à l'invité.
Est-ce que vous partagez l'avis de Olivier qui parlait tout à l'heure de deux défis majeurs qui peuvent constituer des obstacles pour réellement relancer les activités dans le secteur touristique, la sécurité et les budgets?
Tout à fait, exactement. Et d'ailleurs, hier, laissez-moi peut-être vous décevoir tout en vous disant que je suis défaitiste, hein, sinon pessimiste quant à ça. Pourquoi, souvenez-vous, à l'époque du ministre José Ndundo, en 2009-2010, il y a eu, je pense, on avait fait l'état général du tourisme en RDC. Il y a eu plusieurs résolutions. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, je pense que rien n'est mis au point. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord manque de bonne volonté, il y a aussi un problème de budget. On vient de refaire ce programme, bien sûr, mais avec quel budget? Laissez-moi peut-être vous dire quelque chose. Je m'entretenais juste avec un expatrié, parce que moi je me trouve au Maliema, et nous avons un parc qui n'est plus en gestation, mais un parc qui est déjà opérationnel. Et nous avons certains espèces ici qui ne se trouvent ni par ailleurs dans le monde. Mais lorsque je m'entretenais avec ce monsieur, c'est quelqu'un qui c'est un Indien. Il me dit, mon cher ami, nous avons dans notre pays, notre budget à 90%, c'est revenu fort de l'économie. Mais quand vous avez vu chez nous, vous avez presque tout. Et votre budget, vous avez la difficulté, vous avez les intérêts, mais c'est ce que vous comptez avec votre budget. Alors que les touristes, c'est déjà...
Oui, Jean-Claude. Oui, Jean-Claude. Jean-Claude, si vous pouvez dynamiser un peu votre voix, hein.
D'accord.
Mais parce que là, vous êtes... on a du mal, vraiment, à suivre de quoi vous parlez. Alors, mettez un peu de la vie, quoi, oui.
Oui, je disais, je m'entretenais juste avec un expatrié qui me disait que non, notre pays souffre, il y a manque de bonne volonté de nos dirigeants. Imaginez-vous, aujourd'hui, l'année 2016-2017, nous avons quel budget? Et 2017-2018, je ne sais pas, on nous dit non, 3 milliards. Avec 3 milliards, nous avons entendu votre invité. C'est un projet très ambitieux, mais avec quel moyen? Et aujourd'hui, vous voyez l'insécurité. Ça et là, partout dans notre pays, il y a des signes de l'insécurité qui disent que non, qui ne permettent pas aux expatriés, sinon aux étrangers, de venir utiliser nos ressources dans ce domaine touristique.
Mais, oui, est-ce que Jean-Claude, il faut seulement attendre le jour où on a des moyens pour commencer à réfléchir et à donner, disons, à baliser les chemins? Parce que nous savons que le mal est très profond au niveau du tourisme.
Où en est-on avec les résolutions des états généraux du tourisme convoquées par José Ndundo?
Voilà.
Moi, je vous relance cette question.
Voilà. Alors, donc vous souhaiterez d'abord qu'on puisse faire l'évaluation des états généraux tenus en 2009 par l'ancien ministre de l'Environnement et Tourisme, Ndundu, pour arriver à ressortir un peu de recommandations et voir si ça cadre avec toutes ces priorités.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Jean-Claude, d'avoir appelé de Kindu. Nous allons, accueillir également Machaka qui nous a appelé de Lubumbashi. Maître Machaka, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierre, et bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capille.
Vous avez suivi notre invité qui a présenté les trois axes de priorité, de temps d'action prioritaire pour relancer les activités du tourisme en RDC. Comment vous réagissez?
Tout à fait, monsieur Pierre. Les projets sont louables, mais il faut voir les moments et commencer par le commencement. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle de tourisme, comme mes prédécesseurs ont dit, il faut la visite des étrangers. Et quand on parle de l'arrivée des étrangers, on va directement à la sécurité. Aujourd'hui, la situation dont nous traversons, je crois que ce n'est pas encore le moment de relancer ces activités. On doit d'abord commencer par mettre la sécurité dans les pays. Et la sécurité, aujourd'hui, l'insécurité, la cause de l'insécurité, c'est la non-organisation des élections. D'abord, on doit d'abord se pencher pour l'organisation des élections, de sorte qu'il y ait la paix au pays. Et c'est à ce moment-là qu'on doit songer maintenant à relancer les activités touristiques dans notre pays. Ce sont les activités aussi génératrices de recettes, monsieur Gier. Vous savez, aujourd'hui, notre gouvernement se borne dans un seul domaine, le domaine minier seulement. Et c'est ce qui cause beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, ce qui fait que le pays n'avance pas. Et on ne doit pas commencer avec toutes les sites là, les sites qu'il a cités dans un tel moment. On doit commencer par un site touristique.
Un site depuis petit à petit. Donc un chronogramme graduel. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, maître Machaka. On va prendre Valérie parce qu'il y a une question qui taraude mon esprit. Valérie, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Voilà, vous êtes à Kindou, Valérie. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème du tourisme ne concerne que les étrangers, ou bien il va falloir, comme l'a dit notre invité dans un des axes, parler de la sensibilisation de la population, une sensibilisation citoyenne, pour arriver à faire réellement la promotion du tourisme et vendre l'image du tourisme auprès de la population également, pour qu'on change un peu la perception des choses?
Oui, là, il a raison. Les problèmes de tourisme, ça ne concerne pas que les étrangers. D'abord, nous-mêmes, je peux vous donner un exemple. Nous qui avons l'habitude de voyager à travers le pays, en septembre 2014, j'étais à Kisangani. Enfin, je leur ai demandé, mais n'y a-t-il pas des sites touristiques? On m'a emmené à la chute Wagenia. J'ai quand même vu, j'ai payé des frais, c'était un peu organisé, hein, à la Congolaise, là. La communauté locale s'est organisée, c'était bon, j'ai vu la chute Wagenia. Donc, c'est pas seulement les problèmes des étrangers, c'est les problèmes de susciter d'abord les besoins. C'est un besoin culturel. Ce n'est pas un besoin physique. C'est un besoin culturel. Le peuple devra d'abord être en amont éduqué, à être curieux et aussi à expérimenter. D'ailleurs, si nous allons dans cette logique, nous allons faciliter même la compréhension du cours de géographie et même de l'histoire aux enfants. Ça ne sert à rien toujours de leur dire que nous avons ça, nous avons tel parc, nous avons tel... Mais si l'enfant n'a jamais voyagé, ou bien il a voyagé, mais son père ne l'a pas amené là où se trouve ce parc ainsi de suite. En 2011, je devrais aller à Boende, mais je m'étais arrêté en Bandaka. Je comptais bien aller aussi visiter le parc de Salonga. Donc, vous comprenez que ce n'est pas seulement les problèmes des étrangers. Alors, s'il faut maintenant réduire aux généralités, je dirais ceci à M. le ministre. C'est bon, je crois que les 28 mesures urgentes du gouvernement ne datent pas de 2016, mais plutôt de 2015. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a prévu dans les budgets par rapport à ces postes concernant l'environnement. Je crois que peut-être rien, ou peut-être un petit rien. C'est par là où je donne raison à mes prédécesseurs qui disent que le budget ne le permettra pas et je me demande comment on avance. Quatre ans, nous donnons quand même des idées pour que même à l'avenir, les pays puissent déjà posséder des éléments.
Oui, je crois que Valérie, le moment est bien trouvé d'en parler, parce que dans 15 jours, ça sera la rentrée parlementaire, la session sera uniquement essentiellement budgétaire, et ça pourrait être aussi une occasion que tout ce que nous faisons comme analyse aujourd'hui, que ça puisse être pris en compte également. Donc, parce que je l'ai dit tantôt, avant que nous ouvrons les standards, qu'il y a eu à l'époque un fonds du tourisme. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ce fonds sert réellement à relancer le secteur? C'est la question, donc je crois que notre invité pourrait nous éclairer là-dessus, à moins que vous ayez un autre élément à ajouter.
Oui, l'élément que j'ai ajouté, c'est celui-ci. Je suis vice ministre à parler plus des sites touristiques écologiques. Donc, nous nous contentons des paysages, c'est normal. Mais il faudrait aussi que nous créions même des sites par rapport à l'histoire. Nous avons une grande histoire, et longue encore, de l'Est à l'Ouest. Toutes les guerres que nous avons connues à l'Est, on peut bien constituer un lieu touristique où on fait des œuvres d'art, on explique aux gens comment peut-être nous avons été agressés à un moment donné, comment on s'était défendu, ainsi de suite. Bon, nous pouvons aller par exemple dans le Bas-Congo, là où Joseph Kasavubu a été relégué dans son village-là. Toutes ces histoires-là, les conditions dans lesquelles il a été relégué, on en fait quelque chose. Alors, on y va, nous arrivons par exemple dans les Bandundu, l'Afrique de Prisme et Lumumba, le discours qui a à Bulungu qui a alerté les autres pour les poursuivre, la guerre de Moulélé, tout ça on en fait tout un site touristique, on crée et avec des gens formés par les historiens.
Merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup Olivier. Merci. Merci beaucoup Olivier, on retient pour vous, il y a un besoin pour sensibiliser la population à changer un peu sa perception du tourisme en République démocratique du Congo. C'est de cette manière-là qu'on pourrait vraiment faire la promotion de ce secteur. Merci beaucoup. Alors on revient à vous, notre invité, mais tout en rappelant à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent participer à cette émission en composant les 081 890 49 69, ou bien le 081 890 63 80.
Votre connexion internet est trop lente? Radio-Okapi.net vous propose un service gratuit, les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service.
Voilà, nous revenons dans ce studio avec vous, monsieur André Mokesanda, ministre du Tourisme à RDC. Vous avez suivi Olivier Badolité, Jean-Claude Akindou, Valérie également Akindou et Machaka, Maître Machaka à Lubumbashi. Olivier insistait beaucoup plus sur deux défis, à savoir la sécurité et les budgets qui pourraient constituer un obstacle majeur pour la relance de ce secteur. Jean-Claude a beaucoup plus insisté sur les recommandations des États généraux. Alors, que répondez-vous aux uns et aux autres, monsieur le ministre?
D'abord, je voudrais répondre à nos amis qui ont parlé de deux défis majeurs qu'il faudrait relever en ce qui concerne le développement du tourisme. Ils ont parlé de problème d'insécurité, que ce n'était pas le moment de lancer un tel programme. Ils ont parlé de problème de budget. Mais tout de suite, je veux leur dire ceci. Je pense que, je peux l'affirmer, que l'ennemi du Congolais, c'est lui-même le Congolais, n'est-ce pas? Et tous ceux qui véhiculent ce genre de message à travers le monde, ce sont les Congolais eux-mêmes. Et c'est très très grave. Vous savez, l'image que l'on donne du Congo à l'extérieur, mais en fait, pour eux, c'est un pays, et, ils donnent l'image d'un pays
en guerre,
alors que ce n'est pas ça. Quand vous comparez la situation sécuritaire du Congo par rapport à d'autres pays, je ne veux pas citer les noms, mais je crois que le taux, n'est-ce pas, de risque, n'est-ce pas, est-ce que, par rapport au Congo, mais c'est un risque très élevé. Mais vous verrez qu'il y a des touristes qui vont toujours dans ces pays-là. J'avais appris, il y a eu quelqu'un bon, qui s'est fait sauter, il y a eu autant de morts, mais les gens y vont. Et ces pays, parfois, sont les premières destinations du monde. Alors qu'au Congo, le Congo est un pays, n'est-ce pas, un sous-continent. Le Congo, c'est toute l'Union européenne. Ce qui se passe dans certains points, de manière sporadique du Congo, c'est comme qui dirait, il est à Madrid, et ce problème se passe à Oslo ou à Tallinn, en Estonie. Voilà, et tout cet espace-là, la France, l'Italie, l'Allemagne, bon, est-ce qu'il y a la guerre, il y a l'insécurité? Non! En fait, c'est ça le grand problème du Congo. Le Congo, depuis un temps, est devenu un grand encaisseur. Et nous combattons justement contre cette attitude. Le Congo doit réagir, n'est-ce pas? Au coup par coup, n'est-ce pas? Quand vous dites ceci, eh bien, il faut, dans tout ça... C'est un mouvement d'ensemble au niveau du gouvernement.
Il faut une diplomatie. Il faut une diplomatie.
Justement. Et la diplomatie actuelle, le fait.
Passer aussi
le fait déjà, nous n'avons à peine que peut-être deux mois. N'est-ce pas? Je peux dire deux mois de fonctionnement. Et nous sommes en train d'agir. D'agir. Donc nos diplomates, n'est-ce pas, sont instruits pour cela. Et nous-mêmes aussi, avec des conférences que nous avons. Il faut participer à certaines conférences. Voilà. Donc, dernièrement, j'ai même reçu quelques diplomates. Mais qui était étonné de découvrir c'est ainsi. Ils sont ici depuis longtemps. C'est par exemple que nous avons proposé, nous avons un projet de la randonnée du tourisme diplomatique, n'est-ce pas? Les diplomates, on doit aussi les amener dans certains sites pour qu'ils puissent les découvrir. Vous voyez, donc c'est vraiment important. C'est un travail, en fait, de marketing. Et nous, en tant que gouvernement, justement, nous sommes là pour faire ce marketing-là. Donc pour essayer de réparer cette image, n'est-ce pas, à Ternier du Congo.
Oui, je ne sais pas si c'est bon, mais est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui, en tant que ministre du Tourisme, du taux d'attraction dans les secteurs aujourd'hui? Est-ce que ce taux est faible ou il est moyennement, ou il est fort?
Bon, justement...
Il est appréciable.
Il est appréciable. Donc, il y a des demandes. Nous avons des tours opérateurs, n'est-ce pas, qui sont venus nous voir, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de demandes, des gens qui veulent venir. Mais justement, c'est pourquoi je vous avais dit qu'il y avait un certain nombre de choses qu'on est en train d'arranger, notamment des problèmes consulaires, etc. Donc, on va arranger tout ça. Vous savez, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Quand on parle tout le temps d'insécurité, non. Ça, c'est ce qu'on met dans la bouche des Congolais. Est-ce que celui qui a Badolite est là-bas? Il y a la guerre là-bas. N'est-ce pas? Celui qui a Maïndombe, il y a la guerre là-bas. Vous voyez, ainsi de ce qui est dans le bas. Non. C'est-à-dire que bon, ce sont des phénomènes qui arrivent, n'est-ce pas, d'avoir des problèmes par-ci par-là, mais c'est pas à cause de ces problèmes par rapport
aux états généraux. Aux états généraux, il y a eu des recommandations en 2019.
Bien entendu. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, n'est-ce pas?
C'est dans l'esprit, dans le principe de continuité.
Dans le principe de continuité. Il n'y a pas eu que ces états généraux, même bien avant, il y a eu d'autres résolutions, petit à petit. Vous avez connu notre problème, notre pays a connu un certain nombre de problèmes, n'est-ce pas, qui avaient gelé, en fait, cet élan. Mais aujourd'hui, nous pensons que nous
avons... Il y a la conférence nationale souveraine qui a réalisé, il y a eu des documents stratégiques de lutte contre la pauvreté, les DSAP 1 et 2,
voilà.
Il y a le PEG, le programme élargi du gouvernement, donc il y a eu beaucoup de...
Donc le tourisme, on doit commencer quelque part, même s'il arrivait... que ou bien il y a un changement,
il y a toujours
il faut laisser les jalons, il y a la continuité de l'État. Donc nous, notre travail aujourd'hui, c'est jeter ces jalons-là. Et puis, on a parlé de problèmes d'insuffisance de budget et consorts, mais je pense que l'État ne doit pas devenir toujours commerçant. L'État doit jouer son rôle de régulateur, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus le secteur privé. Ça. Parce que je vous avais dit tout à l'heure que dans la chaîne de tourisme, mais vous avez plusieurs intervenants. Vous avez dans le domaine du transport, domaine de l'hébergement, c'est-à-dire l'industrie hôtelière, la restauration, les loisirs, les spectacles, les agences de voyage et tout ça. Vous voyez, c'est tout ce monde-là. En fait, nous jouons le rôle de timonier. Nous sommes devant et on essaye un peu de frayer le chemin et d'appeler tout ce monde-là d'agir. Et nous devons créer des conditions justement pour les investissements privés.
Et le fonds de promotion du tourisme.
Effectivement, le fonds de promotion du tourisme a été anesthésié à un certain moment donné, c'est-à-dire que tout ce qui alimentait ce fonds était envoyé directement pour alimenter le compte général du Trésor à un certain moment donné. Mais je pense que c'était à l'époque, bon, avec le problème de la Banque mondiale, l'initiative PPT, je crois que la motivation, le mobile qui était en fait à la base de ces décisions-là, pour moi, ça n'existe plus. Donc, pour le moment, ce fonds doit être réhabilité. C'est un fonds qui a été créé, fondé par une loi. Et qui n'a jamais été, ce fonds n'a jamais été dissous. Il est là. C'est pourquoi je dis qu'il a été anesthésié.
Oui.
Donc, on doit maintenant le réanimer.
Par un arrêté ministériel.
Oui, l'arrêté a voulu le vider de sa substance. Parce que le fonds est là. Et on dit que ce qui alimente le fond, c'est tel élément. N'est-ce pas? Qui doit aller vers ce fond-là. Alors, à un certain moment donné, on a détourné un peu, n'est-ce pas, l'itinéraire, n'est-ce pas, de ces éléments-là.
Donc, pour avoir des moyens, je crois qu'être parmi votre combat, c'est d'abord récupérer le fonds et puis mettre à la disposition de la promotion.
Justement, c'est à l'instar de l'SPI qui finance l'industrie. Hein, les autres industries. Bon, donc le fonds de promotion, le fonds de promotion du tourisme
va financer l'industrie
du tourisme.
Voilà, on va accueillir d'autres auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Il y a Félicien qui est à Kinshasa, Eric à Likasi et puis Jean Dédieu à Kikuita. Félicien, bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour à tous les auditeurs, bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Le ministre parle de créer des conditions pour attirer les investisseurs. Mais au même moment, il ne reconnaît pas que nous sommes dans une situation d'instabilité politique et que même ce qu'il dit qu'il y a des pays qui sont plus en insécurité que le Congo. Il ne peut pas ignorer que nous avons un point où il y a beaucoup plus de développement du tourisme l'est du pays où nous avons une insécurité permanente. Comment il peut dire que non, on peut venir investir dans ces pays par les privés quand il y a l'instabilité politique, quand il n'y a pas et une gestion orthodoxe de l'économie du pays? Comment est-ce qu'on peut venir investir dans un pays où même parmi les
habitants, il n'y a pas une vraie confiance? Alors Félicien, juste une question de curiosité.
Guerres politiques
et
des guerres à l'Est,
voilà, qui ne se terminent pas. Alors, Félicien, vous avez aussi relevé ces défis liés à la sécurité, liés à l'insécurité, ça et là, c'est vrai, mais la grande question aujourd'hui, pour vous, s'il faut, disons, relancer les secteurs, vous pensez quels sont les préalables? Parce que la sécurité, c'est vrai, on ne doit pas continuer à nous lamenter, dire que voilà, on ne peut rien faire parce que nous sommes à l'insécurité. Mais si vous étiez, par exemple, ministre du Tourisme, quels sont les préalables pour vous, en observant un peu la réalité de notre pays à ces jours, pour que finalement les secteurs puissent contribuer de manière très significative au trésor public?
C'est d'abord la stabilité politique, je l'ai dit. Il faut d'abord stabiliser la politique du pays, la gestion de la chose publique. Il faudra aussi combattre les antivaleurs. Bon, il parle de fonds de promotion. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi on l'avait créé? Donc il y a des problèmes de ces gens-là qu'il faut résoudre d'abord. Quand nous avons des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, quand nous avons un gouvernement qui travaille vraiment pour l'intérêt de la République, pour le développement, c'est alors qu'on peut penser aller loin. Mais aujourd'hui, les gens, bon, en politique, ils sont au gouvernement pour se servir
voilà.
pour eux-mêmes.
Voilà, je crois que Félicien, il y a quelque part des propositions à faire pour l'avenir. C'est comme nous voyons sous notre cieux. Quand on a des ambitions demain ou on a des ambitions pour, au fait, prendre les commandes d'une nation, d'un État, on a déjà une idée sur plusieurs choses. C'est pourquoi nous lançons parfois des débats sur certaines questions, certaines problématiques, pour arriver finalement à orienter quand même, à faire quelques propositions. C'est comme je l'ai dit, quels sont les préalables? Vous l'avez dit, on va prendre également Eric qui est à l'ICACI. Eric, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, la radio Capis, bonjour, notre invité.
Et qu'est-ce que vous vous proposez? Quels sont les préalables? Oui, quels sont les préalables?
La contribution des contribuables pour réussir le processus relatif aux services touristiques. Notre invité a parlé du sport, des loisirs, des enjeux des touristes. Moi, je dis seulement le mot des enjeux des touristes. Parce que nous sommes le 21e siècle. Qui s'est débuté depuis le début, comme le prénom début d'abord de l'histoire de la RDC. Les chaînes se sont terminées, c'est ce qui bloque même la progression scientifique. Il n'y a pas de découverte scientifique, c'est parce que les moyens touristiques n'est pas mis en application. Mais ici, on développait ce secteur. Donc, il s'agit indispensable d'abord qu'on puisse former les touristes eux-mêmes, qu'il y ait une bonne formation, et ceux-là qui seront formés pour la gestion. Une bonne volonté, parce que la RDC nous présente une vision qui est un peu très claire, comme notre invité a parlé, la grandeur de la RDC, venez l'aperçue. Voilà que le CGR, c'était bon.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. On va prendre Jean Desdieux. À qui prie, Jean Desdieux, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à notre cher invité.
Voilà, Jean Desdieux, vous avez suivi vos prédécesseurs. Il y a donc, parmi eux, ceux qui ont beaucoup plus insisté sur les blocages, en fait, des défis qui peuvent constituer aujourd'hui un blocage pour la relance effective de ce secteur. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, notre pays, c'est un champ non exploité dans la plupart des tendues du pays. Alors, si aujourd'hui dans le secteur touristique, et qu'il y a des experts qui voulaient venir et soutenir pour que cela soit exploité, ils seront le bienvenu. Parce que vous savez, la plupart des Congolais ne connaissent pas qu'est-ce que les sites touristiques. Ils ne connaissent pas ça. Mais vous savez, la plupart des pays africains ou européens se sont développés dans le secteur touristique. Alors, nous, dans notre pays, vous savez que le secteur touristique, si que cela est investi dans notre pays, ça peut aussi relever la pente. Et alors, nous ne pouvons pas dire que non, que cela ne soit pas investi à cause de tel point ou tel point.
Alors, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Desdieux. Voilà, merci beaucoup, Jean Desdieux. Voilà, pour vous, vous êtes encore optimiste. Vous dites que ben voilà, la sécurité, le budget, ça ne peut pas constituer un obstacle. Bapalata de Moba, vous êtes avec nous?
Oui, Chapala. Je suis avec vous, JR.
Oui, vous avez la parole,
Chapala. C'est une initiative d'État, le ministre. Et là, effectivement, à soutenir. Toutefois, personne n'ignore que le tourisme s'accommode à la paix. En matière de développement, La paix constitue le mot douce opérandi, c'est hier. Plus on est en guerre, plus on est troublé. Mais si je reviens à ce qu'a dit le ministre, que celui qui est à l'endroit où il n'y a pas de la guerre peut en profiter. Mais que le ministre n'oublie pas que celui qui le développement là ne peut pas en profiter, non seulement celui qui est à l'endroit où il n'y a pas de la guerre, mais aussi à l'ensemble des nations congolaises qui peuvent profiter de tout ce qui concerne le développement.
Merci
beaucoup. Moi, je dis que je ne suis pas vraiment d'accord avec le ministre vis-à-vis de la situation sécuritaire dont
voilà. Alors, vous soutenez les autres qui vous parlaient tout à l'heure de la question de la sécurité. Merci beaucoup. Era, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre contribution?
Oui, je suis tellement intéressé par le débat qui porte sur le tourisme. Et là, je viens de suivre son excellence, monsieur le ministre du Tourisme, André Sanza, qui nous a démontré qu'on peut quand même oser, la RDC peut oser, à remonter son niveau, même voire même son économie, voire même son budget par le tourisme. Donc la relance du tourisme est une préoccupation non seulement nationale, voire même internationale, dans la mesure où la RDC se trouve au centre de l'équilibre même de l'écosystème au niveau mondial. Donc la relance du tourisme n'est pas seulement comme préalable, c'est l'idée de sécurité comme j'entends mes amis qui m'ont précédé dans les débats, insister sur le problème de sécurité. La RDC n'est pas seulement l'Est. Le cas de Maïndombe que le ministre a dit, ce n'est pas toute la RDC qui est en guerre. Il y a quand même des points où, des provinces où il y a quand même la paix. C'est depuis très longtemps, le Maïndombe, le Bandundu profond n'a jamais connu de problèmes de guerre. Et donc si, de l'autre côté de l'Est, il y a des problèmes de guerre, donc nous, dans le Bandundu, on ne peut pas relancer le tourisme parce qu'il y a la guerre. Mais c'est quel raisonnement ça? C'est pas normal. La RDC, c'est pas seulement l'Est. Quand vous parlez, vous suivez l'histoire de la RDC, on vous dit que le roi Leopold II avait baptisé le Maïndombe domaine de la couronne. Combien ont déjà réfléchi sur le pourquoi du roi Leopold II de baptiser le Maïndombe domaine de la couronne?
Oui, tout à fait.
C'est qu'il y a des richesses qu'on n'a jamais dû exploiter. Et on peut quand même chercher à faire du tourisme. On peut relancer le tourisme dans ces côtés-là.
Oui,
avant de quitter le Komutu, je vous donne un exemple. Quitter le Komutu pour aller vers Inongo Oshekiri. Donc vous allez voir, pendant que vous remontez, vous allez voir ce que nous appelons des forêts aquatiques. Et dans les forêts aquatiques-là, il y a des espèces, plus de 5000 espèces de reptiles, plus de 5000 espèces de oiseaux, de plantes et des insectes, et voire même à la frontière avec l'Équateur, le parc Salonga. Donc là, on parle même de berceaux de bonobos. Combien peuvent aller investir là-bas? Donc c'est scandaleux. Quand vous parlez de forêts équatoriales, les gens ne connaissent pas ce qu'on entend par forêt équatoriale. Mais il faut y entrer pour voir que c'est un autre monde. Et ces investisseurs-là peuvent venir. Les gens qui suivent la télé, les chaînes câblées, il y a une chaîne qu'on appelle Ushuaïa. Mais vous allez voir tout comment que là, c'est ce qui se trouve chez nous.
Tout à fait.
C'est plus que ça.
Voilà, merci beaucoup.
Et nous saluons le courage, même la vision du ministre Sanza.
Merci.
Et nous souhaitons à ce que, s'il y aura réellement remaniement au changement de gouvernement, qu'on puisse ne fût-ce que garder de tels ministres parce qu'il
voilà.
a de la
quand
vision.
Pas,
et je pense qu'avec ce monsieur-là,
voilà. on va faire l'apologie
la
des
gens. De
mais alors, juste un complément, parce que quand vous l'avez dit, c'est vrai, il y a bon nombre qui ont insisté sur l'aspect sécurité à l'Est, mais nous tenons quand même à les dire aussi que malgré qu'il y a la sécurité à l'Est, il y a des touristes qui y vont. Chaque jour qui passe, ils visitent des gorilles. Chaque jour qui passe, ils viennent visiter
ou encore se rendre compte des réalités sur le terrain. Mais le vrai problème aujourd'hui, par le passé, on avait la vision, c'est-à-dire qu'on avait la perception que le tourisme reposait que sur la partie est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons aussi qu'il y a encore des valeurs, il y a des essences à exploiter dans la partie ouest également, notamment à Bandombe, comme vous venez de le dire, monsieur Hera et tant d'autres auditeurs qui vous ont précédé. Ben alors, comment faire pour exploiter également la partie ouest qui ne connaît pas de manière un peu très significative la guerre, comme on l'a dit, dans la partie est. Merci beaucoup, Hera, d'avoir appelé 0-81-890-63-49-69 pour votre intervention en direct. Monsieur le ministre, vous venez de suivre cette deuxième série, cette longue série. D'abord, votre réaction.
Oui, merci, JR. Je crois que, pour moi, j'ai l'impression que le Congolais n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris. Et cela est dû, peut-être, je n'injurie personne, au fait que beaucoup de gens ne sont pas sortis du Congo. N'est-ce pas? Il y a d'autres qui ne sont même pas encore allés à Brazzaville et qu'on sort. Donc, ils vivent, n'est-ce pas, certaines réalités, n'est-ce pas, qui ne rime pas au développement. Vous savez, quand vous voyagez, vous avez une photographie, n'est-ce pas, de ce qui se fait ailleurs. Quand vous revenez dans votre pays, vous transposez votre photographie sur la photographie du Congo, eh bien, on peut ressortir des insuffisances. Et c'est sur base de ces insuffisances que nous élaborons nos programmes pour aller de l'avant. Nous ne sommes pas là, n'est-ce pas, pour faire la politique du ventre, comme d'aucuns le disent. Mais nous sommes des patriotes. Parce que ce que nous voyons ailleurs, quand nous rentrons au Congo, ça nous fait très mal. Et quand nous entendons ce que les gens racontent à l'extérieur, par rapport aux réalités du terrain, ça nous fait très mal. Et c'est pourquoi j'avais conclu pour dire que c'est le Congolais qui est son propre ennemi. Il est le premier à dire, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Nous avons des problèmes d'insécurité à l'Est, justement. Mais pour mettre fin à cette insécurité, il faut de l'argent, n'est-ce pas? Vous aviez appris, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais les industries fonctionnaient en dépit de la guerre, n'est-ce pas? Il y avait aussi des investissements.
Mais aujourd'hui, avec la Libye et d'autres pays du Nord,
oui,
c'est
couru
par les touristes, les terrorismes, oui. Mais la vie continue.
Et alors, le Congolais est habitué à l'attentisme, n'est-ce pas? Il est là, il attend, non, puisqu'il y a quelques convulsions politiques, donc il faut attendre que toutes ces convulsions s'estompent pour commencer justement à investir, à faire le marketing pour faire venir les investisseurs. Mais c'est une mauvaise politique. C'est ça, nous amenons une autre éthique au niveau du gouvernement. C'est ça, le Congolais doit savoir faire la différence entre la politique et l'économie, n'est-ce pas? Et vous avez vu, il y a la Belgique qui a connu, je ne sais pas moi, une crise politique pendant une année, mais l'économie marchait. Mmh. Mais chez nous, c'est parce qu'on veut tout lier à la politique. Oui. Quand la politique tousse, l'économie doit tousser. Non, il faut qu'on arrive justement à séparer les deux choses. C'est la raison pour laquelle dans notre politique, nous aimerions que, quand bien même qu'il y ait des convulsions, nous sommes un gouvernement. Mmh. Ce gouvernement, peu importe sa durée, vous comprenez? Mais lorsqu'on vous nomme ministre, vous êtes un connu de l'État, vous êtes un professionnel, et vous devez faire votre travail.
Vous êtes dans les principes de continuité.
De continuité. Donc, moi, je ne peux pas me dire, je me croise les bras, parce qu'il y aurait ceci ou cela, dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est de suite. Non, moi, je travaille.
Voilà. Alors, voilà, une question, parce que dans les trois axes, le premier axe, c'est la création de la grande industrie du tourisme congolais.
Oui.
Alors là, le tourisme congolais est générateur de recettes importantes.
C'est ça.
Alors, mais qui certainement échappe au trésor public.
Oui.
Vous êtes ministre aujourd'hui, vous avez fait un constat, comment cela échappe?
Bon, c'est comme je vous l'avais dit, d'abord, pour mieux connaître, n'est-ce pas, l'impact, n'est-ce pas, du tourisme, des recettes du tourisme, parce que les recettes du tourisme sont considérées comme étant les recettes d'exportation. C'est comme ça on les considère. Et les recettes du tourisme, pour les saisir, n'est-ce pas, il faut des mécanismes. Au jour d'aujourd'hui, il est pratiquement difficile qu'on vous dise, voilà, le tourisme a rapporté autant, n'est-ce pas, au Congo. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il y a des préalables qui ne sont pas mis en place. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre programme d'action, nous militons pour la mise en place de ce qu'on appelle le compte satellite. Le compte satellite du tourisme, en fait, cette notion a été élaborée par les Nations Unies pour mesurer l'envergure de secteurs économiques qui ne sont pas définis comme des branches d'activité dans les comptes nationaux. Donc le tourisme, par exemple, est un amalgame de différentes branches d'activité
hein, de tels que le transport, l'hébergement, la restauration, les loisirs, les spectacles et les arts de voyage. Donc, le tourisme est un phénomène exceptionnel. Il est défini par le consommateur, soit le visiteur. Donc, ce compte satellite est un instrument statistique conçu pour mesurer ces biens et services selon des normes internationales en matière de concepts, de classification et de définition qui permettront d'établir des comparaisons valides avec d'autres branches d'activité, éventuellement d'un pays à l'autre, entre groupes de pays, etc. Donc, ce sont des mesures importantes. Donc, c'est un instrument qui va vous permettre, qui offre des données crédibles concernant l'incidence du tourisme et de l'emploi.
Alors, l'érection du tourisme amène ici des cohésions nationales, oui, des consolidations de la paix et des sensibilisations citoyennes. Qu'entendez-vous par là?
Oui, en fait, comme vous le savez, le tourisme, d'abord, vous savez ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle l'Organisation mondiale du tourisme, qui est une institution spécialisée des Nations Unies, mais ça a été créé justement pour la consolidation de la paix. Parce que lorsque il y a des gens, n'est-ce pas, au Congo par exemple, vous pouvez avoir telle communauté, n'est-ce pas, qui n'arrive pas à cohabiter avec telle autre. Mais dans le même pays, vous avez la même communauté qui cohabite avec cette communauté-là, qui est pratiquement hostile à l'autre. Donc lorsqu'il y a échange, des gens du Tanganyika vont par exemple à tel endroit où il y a des pygmées, et ils voient comment cela cohabite, eh bien, c'est un exemple. Donc, ça consolide aussi la paix. Vous comprenez? Et aussi, lorsque on quitte tel endroit pour aller vers tel autre, ben, les peuples sont ensemble, ils s'aiment mutuellement, ils se considèrent comme un seul peuple. Parce que quand les gens ne se déplacent pas, ne se connaissent pas, quand vous quittez Lubumbashi, vous allez à Lubumbashi, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont dans un autre pays. Mmh. Or, normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Voilà, donc, tu vas à Lubumbashi, tu es chez toi, tu as ce sentiment.
Alors, tout ça, c'est avec l'objectif de relever le prestige du Congo et de son attractivité touristique.
Oui. Oui. Justement, ça veut dire qu'en tant que là, c'est un autre axe qui concerne le relèvement du prestige du Congo et de son attractivité touristique. Donc, ce prestige-là, en fait, doit revenir avec ce marketing que nous sommes en train de faire. Et le marketing, surtout à l'extérieur. Aussi, même à l'intérieur, vous voyez des gens qui parlent ici, en parlant, quand toi-même congolais, hein, tu te dis non, il y a une stabilité et vous prononcez de telles paroles. Mais vous êtes en train de faire fuir des gens. Mais je dois surprendre celui qui a parlé de cette manière-là pour lui dire que, quand bien même que lui considère ça, il y a des gens qui se bousculent au port de l'arrivée, c'est pour investir. Mais le Congolais lui-même, non, voilà, ce sont des
actifs que nous vont bâtir. Voilà, je crois qu'on va, d'ailleurs, demain, on fera une émission sur l'investissement, la problématique de l'investissement en RDC, avec les codes d'investissement et aussi quelques structures qui ont été mises en place pour arriver à ces résultats. On va prendre le dernier auditeur, Panzou et Tagbadolité, Isor en Canada, une minute à chacun en tout cas. Une minute et puis on conclut avec notre invité dans 30 secondes. Panzou? Monsieur Panzou, vous êtes avec nous? Voilà, Isdor à Kananga. Bonjour Isdor.
Bonjour Gilles, bonjour aussi à l'invité.
Voilà, en 30 secondes, qu'est-ce que vous voulez ajouter que les autres n'ont pas évoqué dans leur propos?
Oui Gilles, moi je voulais seulement ajouter une chose. Vous savez, ici au Congo, nous sommes déjà habitués à des théories, mais en pratique zéro. Mais nous voulons un peu demander au monsieur le ministre. C'est aujourd'hui qu'on venait d'attendre qu'il y a un système touristique. Mais ce qu'on n'a jamais entendu, mais il y a combien des universités même ici au Congo qui parlent de ce système touristique-là. Déjà aujourd'hui, nous avons connu une crise monétaire, si je m'abuse. Nous avons connu cette crise, et puis on nous dira aujourd'hui que le gouvernement n'a pas suffisamment de moyens. Mais c'est là où on va le faire, avec quels moyens aujourd'hui?
Merci beaucoup, Isdor. Merci beaucoup. Je crois que la question là a été déjà abordée par vos prédécesseurs. On va conclure notre émission. Trois axes prioritaires pour relancer l'activité. D'une part, ça demande des moyens. De l'autre côté, il faut faire également des plaidoyers pour le fonds. Et je crois que c'est là l'objectif de votre travail.
Oui, effectivement, JR, nous posons les jalons, on est là, et nous devons travailler d'arrache-pied. Nous ne pouvons pas nous croiser les bras avec l'expertise que nous avons au niveau de notre pays et consorts. Nous devons faire en sorte que le tourisme devienne même la première, si pas la deuxième ressource en devise. Parce que, comme vous le savez, un touriste à lui seul génère 10 emplois. Un touriste. Et ça, les gens l'oublient. Vous voyez, donc, ce sont des secteurs porteurs, n'est-ce pas, d'emplois et consorts. Et nous devons essayer d'encadrer, n'est-ce pas, ceux qui sont là,
la sensibilisation
et promouvoir le partenariat public-privé. Vous voyez, et c'est ce que je dis ça à un diplomate. Bon, en fait, un diplomate anglais, je lui ai dit, dans ce partenariat, nous disons, we eat, you eat. Voilà, c'est ton partenariat.
Voilà, ok. Partenariat public-privé. Merci beaucoup, monsieur André Moquet-Stanza. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir aujourd'hui, ministre, mais autrefois, vous recevez ici, en tant que vice-président de l'ILECO. Voilà, merci beaucoup.
Merci infiniment
à vous qui avez répondu à notre invitation pour parler de la relance de ce secteur de tourisme. Merci à tous les auditeurs qui ont participé à cette émission. Et je sais si Yacala a été à la mise en onde, Pierrot à la réalisation de cette émission, et Nico Kalambay a assuré le standard de ce programme coordonné et présenté par J.F. Lungembo Luabung Anji. A très bientôt pour un autre numéro.